Alors, on va parler de la vie à bord des navires antiques en Méditerranée. Et pour aborder cette question de la vie à bord d'un navire, eh bien, il faut d'abord savoir ce qu'est un navire. Un navire, c'est un lieu de vie, c'est-à-dire une maison, la domus en latin, des gens de mer. Donc, sur un navire, vous êtes censé retrouver, comme dans une maison convenablement dotée, tout le matériel nécessaire à la survie et au confort, même minimum, des passagers et de l'équipage. Donc, dans un navire, vous êtes censé retrouver eh bien, de la vaisselle, de table, de cuisine, des récipients de stockage pour les vivres et pour l'eau potable, mais également des outils pour réparer et entretenir la coque, le gréement et les voiles. Vous pouvez aussi trouver des objets, des jeux, que les marins vont emporter sur le navire pour se distraire. Il faut aussi qu'il y ait de quoi se soigner, se laver. Et puis, il y a aussi des objets qu'on qualifie d'objets liturgiques, ou du moins de porte-bonheur, que les marins vont porter sur eux pour se porter chance lors de la traversée. Donc tous ces objets, ils ont leur place à bord, et il faut vraiment insister sur ce point. Dans un navire, tout est rangé, tout est accroché, pour éviter tout simplement la perte, voire la casse. Donc on va commencer par la présentation d'une épave, qui est la plus tardive de celles que j'ai à vous présenter, qui est l'épave de Yassi Ada I, dont le naufrage est daté du 7e siècle de notre ère. Alors elle a été découverte au début des années 60, entre la côte turque et l'île de Kalymnos en Méditerranée. Et les archéologues se sont amusés à proposer des restitutions des parties internes du navire, en particulier de la cabine. La cabine, c'est le lieu réservé à l'équipage, c'est là où on cuisine notamment. Et donc on voit sur cette restitution que tous les objets, comme je l'ai dit précédemment, sont accrochés, ont une place précise. Vous avez des louches, des marmites, des casseroles qui sont suspendues, et la vaisselle est rangée dans des placards fermés ou sur des étagères qui sont munies de larges bords. Donc je vais continuer mes explications toujours en me basant sur les données archéologiques et en particulier les épaves qui sont découvertes en Méditerranée. Alors il faut savoir qu'en France, l'archéologie sous-marine est contrôlée et dirigée par le DRASM. Le DRASM, c'est le département des recherches archéologiques, subaquatiques et sous-marines qui se trouve à Marseille, à l'Estac. Donc avant d'aller plus loin, eh bien, donnons le cadre chronologique et géographique de ce qui va suivre. Alors je vais vous présenter des épaves qui sont découvertes en Méditerranée depuis le début des années 50, parce que c'est la date à partir de laquelle l'archéologie sous-marine est née. Alors la Méditerranée, c'est un espace assez restreint, mais qui connaît durant l'Antiquité un tel trafic de biens et d'hommes qu'il y a déjà énormément de choses à dire rien que dans cet espace. Concernant la période chronologique, eh bien elle est assez large puisqu'elle s'étend du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle de notre ère. Cet écart chronologique peut sembler abusif, mais il faut bien avoir à l'esprit que les archéologues font avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire des épaves. Je m'explique. Il y a beaucoup d'épaves en Méditerranée, mais seulement un petit lot d'entre elles est véritablement exploitable. Nous avons des épaves qui sont situées soit à très grande profondeur, donc il est impossible d'envoyer des hommes à de telles profondeurs et donc de mettre en place de véritables fouilles archéologiques. Et au contraire, lorsque ces épaves sont à faible profondeur et donc accessibles, eh bien elles sont accessibles à n'importe quel plongeur. Et elles sont donc victimes d'importants pillages. Et le pillage en archéologie, c'est une catastrophe, non pas parce qu'on perd les objets, mais surtout parce que l'on perd le contexte. Et le contexte, c'est la valeur scientifique de l'objet. Maintenant qu'on a posé le cadre, eh bien, répondons à cette question essentielle, à quoi sert un navire ? Alors un navire, ça sert à commercer, c'est-à-dire à transporter des biens, des marchandises, ou à faire la guerre. Ici, on va parler uniquement des bateaux commerciaux et essayer de faire comprendre que durant l'Antiquité, la Méditerranée, donc ça représente un monde de marchands où tout est source de profit, ou du moins peut l'être, c'est-à-dire des biens comme l'immense cargaison d'amphores remplies d'un vin de très grande qualité ou au contraire de piètre qualité, comme la petite écuelle du marin qui, lors d'une escale dans un port, décide de la vendre contre quelques pièces de monnaie. Donc on vend des biens matériels, mais également des hommes, ou plutôt des esclaves, qui sont comme les objets, qui sont des chargements à part entière, comme pourraient l'être des sacs d'amandes ou des lots de céramique. Alors on a une épave qui aurait pu être de ce type de navire, des navires transportant des esclaves, qui est l'épave de Cherki Bank D, ça s'écrit Skerki, mais ça se prononce Cherki Bank D, qui a pu donc transporter des esclaves. Je dis bien a pu, parce que c'est une hypothèse qui est très séduisante, mais qui ne fait pas l'unanimité chez les chercheurs, et on expliquera pourquoi après. Alors c'est un site qui se trouve dans le détroit de Sicile, à 850 mètres de profondeur. Donc on n'a pas pu faire de véritables fouilles à une telle profondeur. On a donc envoyé un robot, un ROV, c'est un robot téléguidé, et un sonar qui nous ont permis d'établir un plan photogrammétrique. Un plan photogrammétrique, c'est une mosaïque de photos qui restitue l'épave dans toute sa longueur. Alors, ce qu'on voit sur ce plan photo, c'est qu'il y a deux zones d'objets qui se distinguent nettement, à l'avant et à l'arrière, donc à la proue et à la poupe du navire, qui sont des céramiques. Donc on sait que ce bateau transportait du vin, également des lampes. Et puis au centre, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, le navire est vide. Et c'est ce qui intéresse aujourd'hui les archéologues. Le vide en archéologie a longtemps été sous-estimé. On jugeait qu'un vide est un vide et qu'il n'y avait rien. Or, ce type de raisonnement ne fait pas sens dans les logiques commerciales de l'époque. Un navire, il est toujours rempli au maximum. Son chargement, il doit être optimisé pour en tirer tout simplement le plus de profit, et surtout que le voyage et les risques pris en vaillent la peine. Parce qu'il faut le rappeler, à l'époque, la navigation, on navigue sans outils. On a un bon exemple pour illustrer cette idée de chargement optimisé. Il y a une épave qui a été retrouvée au large de la presqu'île de Gien, qui s'appelle la Madrague de Gien, entre l'île de Porquerolles et cette presqu'île, qui transportait des amphores sur plusieurs niveaux. Et donc on voit que les amphores étaient encastrées les unes sur les autres et qu'il n'y avait aucun vide laissé dans la coque. D'ailleurs, les amphores, elles sont faites et elles sont transportées pour ça, pour leur capacité à se chevaucher les unes sur les autres. Donc depuis quelques décennies, on reprend ces interprétations et on pense qu'un vide au centre de la cale, ça pouvait être en vérité la trace d'un chargement, mais de nature périssable, des amandes, des tissus, des peaux ou des hommes, des esclaves. Donc l'épave découverte dans le détroit de Sicile, on l'a dit, elle transportait du vin. Un vin, on sait très bien d'où il vient. Il vient de Cosa, en Italie. Et les villas de Cosa, sont connues pour avoir un système de production de type esclavagiste. Donc on a imaginé que ce navire était parti de la côte italienne pour exporter son vin, et lors du voyage de retour, pour ne pas repartir à vide, avait embarqué un lot d'esclaves qui était la future main-d'œuvre de ces ateliers de production viticole. Donc c'est une hypothèse très séduisante, mais elle est de plus en plus remise en cause par les spécialistes. Mais néanmoins, on maintient l'idée que dans ce vide, il y avait des hommes et pas des objets, parce qu'on a retrouvé à bord de cette épave un lot impressionnant de cruches. Donc les cruches, ce sont des récipients pour contenir de l'eau notamment, qui ne sont pas du tout destinés à la vente, mais bien à la consommation à bord. Et donc s'il y a autant de cruches, c'est peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes dont il faut s'occuper. Donc là, j'ai commencé à évoquer la présence des hommes sur les navires. Et sur chaque navire, bien évidemment, il y a un équipage. Un navire n'avance pas tout seul. Et donc un équipage peut se définir comme une organisation humaine, unie et organisée. Ça signifie que chaque membre de l'équipage a un rôle précis durant la traversée et qu'il est indispensable au bon déroulement de ce voyage. Il y a également l'idée qu'il y a une certaine hiérarchie dans les postes attribués aux marins. Alors on les connaît très bien pour les navires de guerre, les navires de la flotte impériale ou à la rigueur pour les navires de gros transport, notamment les navires qui sont chargés du ravitaillement en céréales et en blé, ce sont les navires de l'Annone. Et je vais quand même vous donner quelques titres de statut de ces marins pour qu'on puisse se représenter eh bien, l'organisation qu'il pouvait y avoir à bord. Donc par exemple les rameurs, ce sont les rémiges. Vous avez toutes les personnes qui travaillent dans la cale, qui sont préposées à l'arrimage de la cargaison et aux manœuvres des pompes, et ce sont les mesonotae. Et puis à l'extérieur, vous avez les notae, qui sont ceux qui manient les ancres et les voiles. Vous avez aussi les gabiers, qui entretiennent le gréement. Et puis ensuite, on passe au statut de chef, ceux qui commandent le navire. Alors, avec le plus connu, c'est le chef pilote, c'est le gubernator. C'est littéralement celui qui tient les barres des rames gouvernail. Alors, il peut être secondé par un prorêtre. Et puis, vous avez tout ce qui se passe autour de la cabine. La cabine, c'est la diaeta, donc ça veut dire la chambre du pilote. Vous avez tous ceux qui travaillent autour de cette cabine, qui s'appellent les diaetari. Donc tout ce vocabulaire illustre l'organisation stricte que l'on peut trouver sur un navire. Alors évidemment, voilà, ça s'applique plutôt à des navires de type guerrier, impériaux. On ne dispose pas de données aussi précises pour les navires de commerce que je vous présente ici. Et il semble que la composition des équipages de ceux-ci ait été beaucoup plus aléatoire. La plupart des recrutements de marins devaient se faire sur place, au port, peut-être peu avant le départ du navire. Et on peut d'ailleurs aisément imaginer l'ambiance qu'il pouvait y avoir sur ces zones portuaires, quand on visite par exemple la place des corporations à Ostie, qui est le port antique de Rome. Alors la place des corporations, c'est une place quadrangulaire qui était entourée d'un portique. Sous ce portique, vous aviez des petites cellules, et chaque cellule était pavée de mosaïques au thème maritime. Et ces lieux accueillaient les bureaux des armateurs, des marchands, et donc on peut facilement imaginer des personnes cherchant du travail, cherchant à embarquer sur un navire, se promener dans ces allées et signer des contrats, tout simplement. Donc on se rend compte que l'équipage des navires marchands se formait autant de professionnels que d'amateurs opportunistes. Et en vérité, il est très difficile d'avoir des informations précises sur les hommes navigants. Leur nombre, leur identité, leur origine géographique est très difficilement perceptible par les données archéologiques. Alors il y a une famille d'objets qui peut nous renseigner sur l'identité des marins. Ce sont les récipients qui constituent la vaisselle de bord. Donc je l'ai dit en introduction, c'est la vaisselle de table, de cuisine, de stockage. C'est tout ce que le marin reçoit lorsqu'il embarque à bord d'un navire. Son assiette, sa coupe, son gobelet pour prendre ses repas durant le voyage. Alors les apports de cette documentation sont très restreints, mais ils sont néanmoins très importants. L'archéologie a, jusque dans les années 80, sous-estimer ces objets, considérant qu'il ne s'agissait là que de vieux bols de céramique, maintes fois réutilisés et en mauvais état. Or, plus les recherches avancent, plus on reprend les plans anciens des épaves et plus on les réinterprète, plus on se rend compte que la vaisselle de bord apporte du sens à la compréhension du commerce maritime et de la vie à bord. Alors, on suppose que chaque marin a sa propre vaisselle, pardon, et parfois, on le verra ensuite, il la personnalise. C'est-à-dire qu'il va venir inscrire son nom quand il sait écrire ou venir graver des petits symboles pour pouvoir la différencier des autres récipients. Alors cette vaisselle, elle est beaucoup moins protégée que tous les autres objets à bord d'un navire, tout simplement parce qu'elle est utilisée quotidiennement, à chaque repas. Et donc elle est beaucoup plus à même de finir cassée ou perdue. Donc finalement, ces objets utilisés par les marins sont renouvelés très régulièrement. Et puis il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les marins sont des voyageurs. Et il faut donc imaginer que ces personnes, lors d'escales dans des ports, n'hésitez pas à acquérir un nouveau bol ou une nouvelle coupe dont la forme pouvait leur sembler exotique ou du moins ne ressemblait pas du tout aux productions de leur pays d'origine. Un petit peu comme nous lorsque nous ramenons un souvenir de voyage. Donc il n'y a donc aucune raison de penser que les matelots mangeaient dans de vieilles gamelles à moitié fissurées et ébréchées. De cette façon, la vaisselle retrouvée en contexte de fouille est un parfait moyen pour dater le naufrage. Et le naufrage, c'est très difficile à dater. Donc prenons un exemple, celui de l'épave Baie de l'Amitié qui a été retrouvée au large de la ville d'Agde dans l'Hérault, à très faible profondeur, entre 2 et 4 mètres. La vaisselle de table, elle se compose de coupes, de bols et d'assiettes en céramique, une céramique que l'on appelle sigillée. Alors la céramique sigillée, c'est une céramique très belle parce que la pâte est très fine et que la plupart du temps elle est recouverte d'un vernis rouge luisant, brillant, avec souvent beaucoup de décors. Donc c'est une céramique qu'on identifie parfaitement, on la date très facilement et on sait où elle a été produite. En l'occurrence, là sur cette épave, ces céramiques, elles ont été fabriquées à Millau dans l'atelier de la Grosfesanque. C'est un site que l'on peut toujours visiter d'ailleurs. Et elles datent de 60 après Jésus-Christ. Et certaines sont marquées de graffiti. Donc on sait qu'elles appartenaient aux marins. Et elles donnent la date du naufrage. Un naufrage qui n'aurait pu se passer qu'à partir de 60 après Jésus-Christ. Donc ces objets sont des marqueurs chronologiques, ça c'est certain. Par contre, ce ne sont pas des marqueurs géographiques. En particulier quand il s'agit de céramique. La céramique, c'est un petit peu comme notre canette de Coca-Cola aujourd'hui. Elle est fabriquée partout, vous la retrouvez partout, elle est soumise au transport, aux imitations, et donc elle n'est absolument pas en mesure d'indiquer une quelconque origine pour les marins. Et on pourrait d'ailleurs généraliser ce point en rappelant qu'un objet ne permet pas de prouver une quelconque origine géographique. C'est le commerce durant l'Antiquité est un commerce que certains qualifient de mondialisé. Et comme pour notre époque, nous pouvons par exemple porter des vêtements étiquetés Made in China et ne jamais avoir mis les pieds en Asie. Et bien c'est la même chose durant l'Antiquité, c'est-à-dire que les ateliers de production diffèrent des lieux de vente qui eux-mêmes diffèrent de l'identité d'une personne. Ce qui peut nous donner des renseignements sur l'équipage, ce sont les graffitis, ce que les marins ont gravé eux-mêmes sur leur coupe. Alors parfois on a des noms, c'est le cas d'une balance romaine qui est inscrite au nom de Georgios, qui provient de l'épave que j'ai présentée tout au début, Yassi Ada I. Et c'est un des rares exemples de patronyme complet que l'on possède. Alors, Georgios l'Ancien, on sait qui c'est, on l'a retrouvé. C'est un eau claire, donc un propriétaire de navire, contemporain de l'empereur byzantin Héraclius, qui a régné de 610 à 641 de notre ère. À part des noms, on peut retrouver aussi des symboles. Quand les personnes ne savent pas écrire, elles vont signer d'une croix leur coupelle. Et parfois, on a même des professions qui sont inscrites sur les récipients. On a une coupe qui est très connue dans l'archéologie sous-marine, où sur la face externe de la coupe est inscrit « Médéor ». Médéor, ça veut dire en latin « médecin, celui qui soigne ». Donc on comprend qu'il y avait un médecin à bord et qu'il avait personnalisé son assiette. Et cette coupe, elle a été retrouvée sur l'épave de l'Addis Poli, qui est une épave au large d'une ville côtière au nord de Fiumicino. Voilà. Et l'autre L'autre indice, ça peut être la langue qui est utilisée pour les écritures. Cependant, la plupart des inscriptions sont faites en latin. Et le latin, dans le monde méditerranéen, est une langue qui est utilisée par la plupart des gens, justement, pour pouvoir se faire comprendre. Donc, au final, c'est absolument pas un indicateur d'origine géographique. Ce qui nous est le mieux renseigné par les découvertes archéologiques, ce sont les repas consommés à bord des navires. Alors, les fouilles sous-marines retrouvent des restes organiques sur un grand nombre d'épaves. Celle de Kyrenia, qui est datée de 300 avant Jésus-Christ, qui est située à 27 mètres de profondeur et qui a été découverte au large de la ville portuaire Kyrenia, qui est sur la côte nord de Chypre, eh bien, elle a délivré des olives, des pistaches, des noisettes, des lentilles, des figues, du raisin, de l'ail, une grenade et diverses herbes, des herbes aromatiques. Donc les denrées alimentaires sont assez variées et on peut en déduire que le régime des marins se composait de fruits et de légumes frais durant les premiers jours de navigation et parce que ce sont les aliments à consommer le plus rapidement possible. Et puis ensuite l'alimentation basculait vers le régime plutôt alimentaire basculait vers une alimentation de type céréales, graines, fruits à coque et également du poisson, des coquillages et des mollusques. Donc il y a une grande partie des repas qui est également préparée à base de marinades et de salaisons. Il y a souvent une question qui revient, c'est la possibilité de consommer de la viande à bord des navires. Alors, on pouvait consommer de la viande puisqu'on a retrouvé des ossements d'animaux. Alors ce sont soit des animaux qui sont embarqués vivants pour des raisons de conservation, soit ce sont des quartiers de viande déjà prédécoupés et préparés en salaison. Alors le plus souvent il s'agit de viande de porc et la présence de viande rouge à bord n'est pas exclue mais elle devait être très rare parce que la viande rouge avait un coût très élevé. Mais néanmoins voilà, on pense qu'il y avait quand même de la viande rouge parce que la viande rouge a une place très importante dans les cérémonies et les rituels, notamment avant le départ d'un navire et ça on en reparlera juste après. Alors il y a un autre produit de consommation qui fait débat, c'est la question du pain à bord. Alors le pain, c'est l'un des principaux produits de consommation, aussi bien sur terre qu'en mer. Un morceau de pain, ça remplace aisément un couvert, une cuillère, vous pouvez tout à fait pousser votre nourriture à l'aide d'un bout de pain, donc il est utile à deux niveaux. Et c'est pourquoi on aime penser qu'il y avait du pain à bord des navires, de commerce, qu'il soit grec ou romain d'ailleurs. Cependant, on a des problèmes pour sa préparation, parce qu'il est impossible d'envisager embarquer de la farine à bord d'un navire, parce que c'est beaucoup trop humide. Et l'idée de moudre le grain pan en pleine navigation est peu convaincante. Mais on retrouve des mortiers à bord des navires, et à présent, on pense que ces mortiers sont destinés à la vente, et que le pain a pu être embarqué à bord, mais consommé durant les deux premiers jours de la navigation. Dernière chose qu'il faut évoquer, c'est la présence de foyers, donc des structures pour faire chauffer ces repas. Alors c'est souvent un aspect qu'on a du mal à admettre, hein, que les marins de l'Antiquité puissent cuisiner des repas chauds, mais ils en avaient tout à fait les moyens. On a retrouvé différents dispositifs à bord, et je vais vous en présenter trois, les plus connus. Alors, vous avez par exemple une construction assez rudimentaire mais très efficace sur l'épave Calaculip 4 qui a été retrouvée au nord d'Ampurias en Catalogne. Alors en fait, il s'agit de tuiles plates qu'on appelle des tegulae qui sont posées les unes à côté des autres, donc environ trois tuiles plates sur lesquelles on vient poser des imbresses. Les imbresses, ce sont des tuiles arrondies, celles qu'on moule sur les cuisses et qu'on peut encore voir sur certaines maisons aujourd'hui. Et donc sur ces deux tuiles arrondies, vous venez poser votre marmite ou votre pot à cuire et ça laisse un espace suffisamment large entre vos tuiles plates et votre chaudron pour pouvoir mettre votre charbon et faire votre feu. Et d'ailleurs, on retrouve du charbon sur quasiment toutes les épaves. Il y a un assemblage assez proche qui se retrouve sur une autre épave dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, celle de Yassi Ada 1, où là il s'agit d'une structure avec un socle en argile, parce que l'argile est un matériau très intéressant puisqu'il n'est pas conducteur, donc ça permet de faire du feu et de protéger les bois de la coque du feu que vous allez faire. Et donc dans ce socle en argile, eh bien, on venait ficher des barres en métal et sur ces barres, on venait poser une grille et on faisait cuire ces aliments à même la grille. On pouvait aussi tout à fait emporter ces structures, accoster sur une plage et cuisiner sur la plage, mais on peut également le faire à bord. Et enfin, il y a un autre système bien plus sophistiqué qui est découvert sur l'épave Bena 3, donc c'est dans le Var, qui ressemble fortement à ce qu'on appellerait aujourd'hui un réchaud. Alors c'est un bidon en métal qui est lui aussi recouvert d'argile, toujours pour protéger les bois de la coque. Et dans ce bidon, vous versez de l'eau. Ce bidon a deux espaces, un espace où vous pouvez poser votre pot à cuire et un espace où il y a une vasque qui est aménagée. Et dans cette vasque, vous venez poser vos charbons, faites vos braises. Et donc le feu va à la fois faire chauffer votre pot, enfin faire chauffer votre repas et faire porter à ébullition l'eau qui se trouve dans le bidon. Et donc après la cuisson, votre repas peut rester au chaud grâce à l'eau et vous pouvez aussi réutiliser l'eau chaude pour autre chose. Alors, pendant la navigation, quand la météo est calme, que la navigation est donc sans risque, eh bien il faut pouvoir s'occuper durant les longues heures de traversée. Alors la pêche était pratiquée quotidiennement à bord des navires. Elle est un passe-temps et elle fournit une nourriture saine. Donc sur la plupart des navires qu'on a retrouvés, on a découvert des plombs de pêche et des restes de filets, et même parfois des hameçons, comme sur l'épave de Comacho, qui date de la fin du 1er siècle avant notre ère, qui a été découverte. Donc Comacho, c'est une ville bien au sud de Venise, donc c'est côté Adriatique. Les marins emmenaient aussi à bord des jeux. On a retrouvé des dés, des pions, et parfois on retrouve aussi dans la cabine de quoi écrire. On a retrouvé par exemple un encrier en terre cuite sur l'épave de Calaculip 4 que je vous ai présenté juste avant, et on sait qu'il a été utilisé parce que à l'intérieur, sur sa surface, la céramique est abîmée. Et sur cette épave Calaculip 4, eh bien, on a retrouvé beaucoup de pions de jeu. Et donc vous avez deux lots. Vous avez le lot des pions bleus et le lot des pions blancs. Vous avez 23 pions en vert et un en pierre. Donc on suppose que le 24e en vert a été perdu et qu'on l'a remplacé par une pierre. Alors ensuite, c'est toute la dimension des soins à bord et de la médecine qu'il faut aborder maintenant, parce qu'on retrouve beaucoup d'accessoires et d'outils de médecine ou de toilettes sur les bateaux. Alors il peut y avoir un médecin à bord, comme le laisse penser la fameuse signature Médéor qu'on a évoquée là sur une coupe, mais évidemment ce n'était pas le cas pour tous les navires. Et le travail en mer étant physique, parfois risqué, il fallait pouvoir prodiguer les soins de premier secours pour pouvoir attendre la prochaine escale. Donc il n'est pas rare de trouver des boîtes et même souvent des plaquettes en pierre sur lesquelles vous venez écraser vos poudres et faire vos mélanges pharmaceutiques pour ensuite les transformer en onguents, en pâtes que vous allez pouvoir appliquer sur vos blessures par exemple. Et on retrouve aussi des bistouris comme sur l'épave de Plémirio B qui est échoué au large de Syracuse et qui date du 2e siècle de notre ère. À présent, et pour terminer, eh bien on va parler des croyances et des superstitions autour de la navigation. Alors ça, c'est un grand pan de la navigation antique. Mais avant de vous présenter quelques-unes de ces superstitions, eh bien il faut rappeler la distinction entre religion et superstition. Car à notre époque, on peut assimiler, voire confondre ces notions, tandis que durant l'Antiquité, ces termes sont clairement distincts. Alors là, superstitio ou superstitium, ça signifie connaissance véritable, clairvoyance. Donc c'est un terme qui ne revêt aucun caractère négatif comme peut l'avoir le terme à notre époque d'ailleurs. Et durant l'Antiquité, le terme qui aurait un caractère négatif, ce serait plutôt celui de magir, la magie. Bon, la superstition, ça se situe dans un espace différent de la religion et ça se définit par des comportements qui relève de la sphère privée et individuelle. Donc la superstition, vous pouvez Vous pouvez avoir toutes les superstitions que vous voulez, du moment que ça se passe chez vous, dans votre maison ou sur votre bateau. Et pour un Romain, eh bien, le culte public, la religion et tous les comportements religieux privés ou superstitieux sont deux pans juxtaposés et complémentaires. Il n'y a aucune incompatibilité tant que l'ordre public est préservé. Et donc les termes religion et superstition sont indépendants mais ne s'opposent pas forcément. Donc dans l'Antiquité, les nombreux naufrages ont fait naître chez les navigants un besoin constant de rendre culte aux dieux protecteurs. Et d'ailleurs, la plupart des navires étaient baptisés au nom de divinités, et ce nom était souvent peint sur la coque ou bien gravé sur les ancres. Il y a plusieurs ancres sur un navire. Les divinités concernées, en tout cas les plus récurrentes, sont Athéna, Aphrodite, Neptune, pour n'en citer que quelques-unes. Donc dans le domaine maritime, il y a toute une liste de mauvais présages, et d'ailleurs l'auteur antique Pétrone nous décrit ces superstitions dans le texte Satyricon. Donc il y a certains comportements de mauvais augure qui sont à proscrire, tels que se couper les cheveux ou les ongles quand il fait beau. Par contre, s'il y a une tempête qui arrive, et afin d'éloigner le mauvais sort, il faut se couper les cheveux et les ongles. Il est aussi fortement déconseillé d'éternuer en montant à bord, de jurer, de danser, d'avoir des rapports sexuels. C'est pour ça que les femmes sont quasiment absentes des navires. Il ne faut pas raconter ses songes, en particulier lorsqu'il s'agit de cauchemars. Il ne faut pas évoquer la mort. Et puis il y a certains oiseaux de nuit qui portent malheur. Donc il faut mettre en place des rites, des cérémonies pour remédier à tous ces mauvais présages. Et on peut dire qu'il y a trois phases, trois types de rites que l'on dit propitiatoires. Ce sont ceux qui sont destinés à éloigner le mauvais sort. Alors les premiers sont ceux qui se déroulent à terre avant le départ du navire. Par exemple, pour assurer la traversée dans de bonnes conditions, l'empereur va purifier sa flotte avant un départ en campagne. Et c'est ce qu'on peut voir sur les bas-reliefs de la colonne Trajane à Rome. Et donc pour purifier sa flotte, on sacrifie un animal ou on fait des libations de vin. Ensuite, il y a tous les objets liturgiques qu'on va amener à bord du navire. Donc on connaît, d'après les découvertes archéologiques, l'utilisation de petites statuettes. On en a découverte une en bronze qui représente Neptune sur une épave gras d'eau. On en a une autre de Télésphoro avec, la main d'Asclépios qui apparaît sur Télésphoro. Télésphoro étant le troisième fils d'Asclépios, qui est le dieu de la médecine, de la santé. On a deux autres statuettes encore en bois, dont l'une est à l'effigie de Priape, sur l'épave Planier 1. Et puis, on embarque souvent des autels et des répliques de temples, mais miniatures, qu'on les plaçait à l'avant du navire. Ensuite, on pouvait aussi accrocher des cornes de bovidés. Et une pratique qui est très très bien attestée, c'est celle de peindre des yeux, qu'on dit prophylactiques, sur la coque, à l'avant du bateau. Alors, on ne retrouve hélas aucune trace de ces peintures en fouille, mais on connaît de très bonnes représentations de ces peintures grâce à l'iconographie. En particulier les mosaïques et les peintures antiques qui représentent très souvent ces yeux sur les navires. Et on a un très bon exemple qui est au musée archéologique de Naples, dans les salles qui sont réservées aux fresques des villas pompéennes. Vous avez des navires qui sont peints avec ces grands yeux prophylactiques qui sont souvent entourés d'un grand trait noir. Ensuite, il y a l'encre. L'ancre, c'est l'instrument fondamental de contrôle du navire, puisqu'elle sert à l'accostage. Et donc, elle recevait plein de décorations et d'inscriptions. Alors, les motifs sont très variés, mais ils sont toujours en lien avec le milieu marin ou le milieu commercial. Donc, souvent, on va retrouver des dauphins, des coquillages, des osselets, des têtes de méduses. Et il y a une tradition qui a d'ailleurs perduré très longtemps, jusqu'à la fin de la navigation commerciale à voile, c'est de garder l'ancre qui s'appelle l'ancre sacrée ou l'ancre de miséricorde. C'est le plus grand équipement du navire et on la jette en dernier recours. C'est-à-dire que lors d'une tempête, on va jeter d'abord les esclaves, ensuite les biens des passagers, ensuite la cargaison, et à la toute fin, on jettera cette ancre de miséricorde. Et enfin, il y a tout ce qu'on porte sur soi. Les objets qui sont des porte-bonheur, qui sont souvent des pierres. Il y a des pierres qui sont très très appréciées, notamment le corindon, la hyacinthe, qui est une pierre rouge qui ressemble au rubis, le corail, qui est considéré comme une pierre. Et leur efficacité était renforcée si elles étaient gravées et ornées de figures particulières. Donc souvent, vous allez avoir ça peut être des dauphins, mais aussi des amours, donc des petits angelots. On a retrouvé un pendentif de cette sorte sur l'épave Diano Marina. Et puis, il y a une pratique dont j'aimerais parler plus longuement, qui se situe à la limite entre la religion et la superstition. Cette pratique, elle consiste à venir placer une monnaie lors de la construction du bateau dans l'emplanture du mât. Alors l'emplanture, c'est une pièce de bois qu'on vient placer au fond de la coque et qui a plusieurs cavités. Et dont la plus grande cavité, c'est celle où on va venir ficher le mât. Donc là, cette tradition consiste à mettre une pièce au fond de l'emplanture, poser le mât par-dessus. On connaît une dizaine d'épaves antiques qui ont reçu ce type de dépôt. Par exemple, on a l'épave de Port-Vendres A, qui a été retrouvée dans le port de Port-Vendres, en France, qui aurait fait naufrage au début du 5e siècle après Jésus-Christ. Elle a livré une monnaie représentant sur l'avers, donc c'est la face, l'empereur Constantin, et sur le revers, on voit une figure qui est une sorte d'allégorie masculine qui se tient debout, de face, jambes écartées, regardant à gauche et tenant de la main gauche une corne d'abondance. On a interprété cette figure masculine comme étant soit le soleil, soit Jupiter. Alors ces monnaies, elles sont parfaitement datables lorsqu'elles sont retrouvées en bon état. Mais finalement, ces dates ne sont en réalité pas très utiles dans le contexte commercial. Elles sont souvent très anciennes, bien plus anciennes que la construction du navire, et donc ne nous renseignent absolument pas sur l'équipage ou la destination du navire, comme on a longtemps pu le croire. Et il est difficile d'expliquer le sens d'une telle pratique. On connaît des cas qui semblent similaires, par exemple lorsqu'on construit une maison. On va pouvoir poser une monnaie sous la première pierre de la construction. Ou encore, on va venir jeter une pièce dans une fontaine pour se porter chance. Et puis, on a la tradition très bien attestée en archéologie funéraire qui consiste à venir placer une pièce dans la bouche des défunts juste avant leur inhumation pour permettre aux défunts de pouvoir payer le prix du passage dans l'au-delà à Charon. On confère souvent à une monnaie une qualité magique, tout simplement parce que son pouvoir est abstrait, ou du moins invisible. En Europe, jusqu'aux années 80 à peu près, on trouvait encore de telles pratiques sur les bateaux à voile en bois. Et pour ceux dont la coque était en métal, on a pu retrouver des monnaies placées non pas sous le mât, puisque celui-ci est souvent soudé, mais à d'autres endroits de la coque qui sont plus accessibles, notamment vers le gouvernail. Donc, à ces époques récentes, les explications de ces dépôts, ils soulignent une double intention. Dater la construction et porter bonheur. Donc, on a réadapté la pratique, en somme. Mais pour tenter de comprendre cette pratique antique, certains auteurs, certains scientifiques sont allés chercher des informations du côté des populations qui ont gardé une tradition des constructions de bateaux en bois, au moins durant une partie du XXe siècle. Donc là, je vais vous présenter des exemples qu'on peut qualifier d'ethnographiques. Trois exemples qui se situent en Asie du Sud-Est. Un au Vietnam, un en Chine et un dernier au Japon. Alors, au Vietnam, au 19e siècle, on connaît un rituel qui s'appelle le rituel de don de l'âme et d'ouverture des yeux du bateau. Donc le propriétaire, un charpentier et un devin participent à la cérémonie et donc la cérémonie consiste à venir peindre à l'avant du navire des yeux qui permettront au navire de discerner les dangers des profondeurs. On va aussi aménager un petit autel devant le bateau qui reçoit des offrandes qui sont constituées de nourriture, d'encens, de vaisselle et d'argent. Et puis ensuite on prie les génies protecteurs pour assurer une navigation paisible au navire, à son équipage et à son propriétaire. Ensuite, en Chine. Alors, en Chine, le XXe siècle, c'est un tournant majeur pour la navigation, puisqu'on voit disparaître la plupart des embarcations anciennes, en particulier les jonques chinoises. Mais il y a des formes de croyances maritimes qui ont subsisté dans le sud de la Chine et qui constituent eh bien, les derniers témoignages des cultures navales. Alors, on a une série de rites qui rythment la navigation. Donc, avant le départ, l'équipage doit apaiser les mauvais génies de l'eau et de l'air, donc les courants et les vents, par une offrande. Et donc, ces offrandes, ce sont des encens qui sont allumés, mais aussi, et là c'est très intéressant, des petits papiers qui sont destinés à être soit jetés par-dessus bord, soit brûlés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur ces papiers, les personnes vont venir dessiner des monnaies pour remplacer comme un paiement. Et donc, par calme plat, en pleine mer, on vient jeter ces petits papiers qui sont souvent la monnaie est peinte d'une peinture dorée pour rappeler le doré des pièces véritables. Donc, ces cérémonies s'accompagnaient d'une décoration des embarcations dont le sens symbolique avait pour seul but de prévenir les périls maritimes. Et ces peintures, elles représentent soit des animaux, soit des formes complètement abstraites. Et enfin, au Japon, on vénère Funa Dama, qui est la déesse protectrice des pêcheurs et des navigateurs. Alors, pour éviter aux navires des fortunes de mer, c'est toujours la même chose, on fait des offrandes à la divinité. Et donc, la coutume, elle consiste à venir creuser dans le mât principal du navire une petite cavité, une sorte de cellule, dans laquelle on introduit des cheveux de femme, des poupées, des dés à jouer, des céréales et 12 pièces de monnaie. Donc, ces différents exemples que j'ai présentés très rapidement montrent l'immense variété des rites maritimes et des cultes voués. Et ils créent des parallèles assez intéressants avec notre sujet et avec la période antique. Donc, le don d'argent, c'est une pratique courante pour garantir une bonne navigabilité, pardon, au bateau et le bon déroulement du voyage. Et la monnaie de fondation, c'est ainsi qu'on l'appelle, n'est qu'un aspect des cérémonies propitiatoires. Et c'est au final l'un des seuls marqueurs matériels des rites pratiqués. Les paroles, les gestes et la signification profonde de tous ces rites ne peuvent dès lors qu'être imparfaitement appréhendés dans leur diversité. La navigation à bord, c'est un... Pardon, pas la navigation, la vie. La vie à bord des navires, c'est un sujet qui a été très longtemps sous-estimé, mis de côté. Pourtant, c'est ce qu'il y a de plus... Pas de plus intéressant, mais c'est souvent ce qui intéresse le plus les personnes quand on leur parle de navigation, parce qu'on touche à l'humain, on touche aux objets du quotidien, et c'est beaucoup plus parlant. Et bien souvent, l'archéologie sous-marine, eh bien, a commencé par expliquer l'architecture des navires, la construction des navires, leur vie. C'est vraiment attaché à expliquer d'où venait un navire, ce qu'il transportait, quelles étaient les logiques commerciales, en oubliant que des navires avançaient grâce à des hommes, à un équipage et à une organisation. Et en reprenant toutes ces données, que ce soit la vaisselle, les monnaies, les croyances, l'alimentation, eh bien, on se rend compte à quel point ce sont des facteurs importants qui entrent en compte dans le trajet que va effectuer le navire. Et c'est bien tout ce qu'on essaye d'expliquer dans l'étude de la navigation antique. D'où vient le navire, comment il se déplace et quelle est sa destination.